11h30 dans le nouveau bureau de Parjupidémie.
Mes chers amis.
Bonjour Charline.
Je crois que je suis prête.
Bah quoi?
Bah reprendre la lutte.
Non, on va prendre des vacances.
Oui, plutôt des vacances.
Qu'est-ce qu'il y a? Si le gouvernement a failli, notre résistance reste grande.
Elle se passionne pour les discours cette semaine.
On est le 18 juin.
Ah, mais oui, c'est
certes, nous avons été submergés par la maladie.
Voilà, oui.
Mais l'espérance doit-elle disparaître?
Bah non,
c'est sûr.
Il faut continuer la lutte. Cette guerre est une guerre mondiale.
Oh, on n'est pas à Radio Londres là.
Ah, enfin, c'est surtout Radio Bruxelles, a priori.
Non, c'est moi, c'est Radio La Louvière, c'est
oui.
Chez moi.
Ah, ils n'ont pas la radio là-bas.
Mais non.
Bien sûr que si. La flamme ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas.
Ah, bah, j'ai les poils hein, là. Si j'étais Jean Moulin, direct, me dis, je la rejoins là. Bah, tu vois bien, ça lui fait plaisir. Vas-y. Allez, prenons tous le maquis.
Allez, dans le maquis.
Et c'est vrai? Ça vous a donné envie de vous révolter là?
Ah, bah oui, alors là,
Bah, hein. Après tout, le grand Charles, c'était un collègue quoi.
Quoi? Pardon?
Bah, De Gaulle, pendant 4-5 ans, il a eu une émission de radio aussi. Qui a fait une très belle audience.
Bah, d'ailleurs. J'espère qu'il avait pas la même programmation musicale que nous. Hein.
Ça expliquerait peut-être pourquoi les Allemands lui en voulaient.
Bah, oui.
Comme nous, il faisait une émission qui changeait le monde.
Enfin, je dirais plutôt qu'il faisait une émission pendant que Churchill changeait le monde.
Bon, et de toute façon, on va pas se comparer, c'était une autre époque.
Mais voilà, c'était. Voilà, il faisait son truc, nous on fait notre truc.
Voilà, allez, on y va, on prépare notre émission du 18 juin 2020.
Voilà.
On est parti.
Charlie,
Allez, qu'est-ce qu'il fait?
Oui.
Je vous ai compris.
Et je le fais bien, non? France Inter, vous écoutez l'émission où les Belges parlent au français.
Oh.
Et voici la devise du jour. Un seul être vous manque, mais peut-être est-il parti à Londres pour sauver la France. Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour Charline.
Entre deux classiques, vous dénichez une sortie littéraire, un livre fraîchement émoulu. Oui, je mets des mots compliqués quand je parle littérature.
On a compris, hein.
Pour faire croire que je suis dans le game des lettres. Vous conseillez « J'ai hâte d'être à demain » de Sandrine Sénès, un recueil de nouvelles où une femme seule, toujours la même, tente des rencontres qui se soldent irrémédiablement par un échec.
Je suis rentrée chez moi, j'ai ouvert une vieille boîte de seaux piqués devant Jean-Luc Reichmann.
Salut Guillaume Meurice.
Bonjour les jeunes.
En cette date solennelle. Vous êtes du genre à vouloir commémorer, vous, j'imagine.
Oui, parce qu'on est le 18 juin. Vous saviez ça, Charline?
Non.
Voilà. Et ben, je vais vous parler du général de Gaulle. Une figure mythique pour les Français, mais avec quand même des zones d'ombre.
L'Algérie, c'était mauvais, c'est clair.
Ah, il nous a fait perdre l'Algérie, putain. Pardon.
Ici, Paris, allô. Marseille en duplex. Thomas Croisière, bonjour.
Ici, Radio Marseille.
Oui, je suis nul en imitation comme Vizorek.
On l'a reconnu, c'était De Gaulle.
Très bien, on va en bouffer toute l'émission. Donc si ça vous gonfle, éteignez immédiatement.
Moi, j'ai 5 minutes là-dessus, hein.
Aujourd'hui, c'est déjà une sorte de jubilé du mini-ciné-club avec un Charlie Chaplin. Comme pour nous tous, pour Alfred et Gaston, il y aura un avant et un après avoir vu le dictateur.
Hi Hitler.
Quoi? Tu peux Hitler mieux que ça, non?
Hi Hitler.
C'est trop réfléchi. Hi Hitler.
Hi Hitler.
Hi Hitler.
Hi Hitler.
Oh, ça y est, tu l'as.
Hi Hitler.
Amuse-toi bien. Hi Hitler.
Tu oui, c'est bon.
Vous êtes sur France Inter, hein, pas sur Sud Radio. Hein.
J'espère que vous avez vu Jojo Rabbit, un extrait, et ça vaut franchement le coup. Bonjour Alex Vizorek.
Bonjour Charline Vanhoenacker, notre dictatrice bien-aimée. Une toute belle équipe autour de la table. Alors, la semaine dernière, après une chronique qu'il avait faite sur votre poitrine essentiellement, vous lui avez dit élégamment « N'hésite pas aussi à faire du fond ». Ce quoi il a répondu « Si moi aussi je fais du fond dans l'émission, il y aura trop de fond ». Voilà, vous n'avez donc jamais écouté notre émission. Bonjour Émeric Lompré.
Bonjour.
Très bien, donc on va parler. C'est de fond aujourd'hui?
Je suis en train d'y réfléchir, mais ça veut dire qu'il y aura du fond.
Hein. Ouais, très bien. Ensuite, celle qui s'est dit, après avoir confondu Breton et Gide, si moi aussi je fais de la précision dans cette émission, il y aura trop de précision. Bonjour Clara Dupont-Molo.
Bonjour Alex.
De quoi on va parler?
Du froid.
Ah bah oui.
On le sent bien là.
Ouais, oui. Ouais. Ensuite, vous entendrez celle qui, depuis 5 ans, s'est dit, si moi je choisis des musiciens connus, alors que Djoubaga n'en choisit pas, il y aura que des musiciens connus dans cette émission, c'est vous, Mélanie Power.
Oui, alors aujourd'hui, un nouveau groupe que personne connaît.
Et ben,
ça alors.
Quel pitch. Ajoutez à cela un dessin d'ingénieur, des exercices de pinailleur, un journal d'aboyeur et vous obtenez un programme de winner.
Vous avez une tête de winner.
Ouais, c'est la winner.
Ouais. Bon, est-ce que vous avez la win?
Ouais, j'ai la win.
Ouais.
Voilà.
Dans le public du carreau du temps, vous avez la win.
Oh la folie.
Ah,
ah oui.
On sur deux, mais
eh bah, le bouche-oreille commence à fonctionner, j'ai l'impression.
Il y a Kéké, notre stagiaire, et à Sarah Masson aussi, à la préparation de l'émission. Ils sont deux, on va mettre une ambiance de ouf. Allez, donc un programme de winner.
C'est parti.
Let's go, begin, to the beginning.
France Inter. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek.
On sent un lâcher prise.
Au début, le jeu.
C'est propre, c'est carré, j'aime bien.
Rien que le début de l'émission, le sommaire est déjà 18h, Fabienne Saint-Denis. il reste pas grand chose. J'espère que vos chroniques sont pas trop longues, hein, parce qu'on va pas avoir
tellement de temps. Non.
On peut couper Emmerich sinon.
Ouais, justement, j'allais dire, comme on a un programme de winner, on va peut-être commencer par le plus winner d'entre nous. Parce que tout le monde voit bien qui c'est, ou il y a une hésitation.
Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien? J'ai rien entendu, nom de Dieu! Ouais. Bon, moi ça va moyen, parce que je suis allé à la manif mardi et c'était chaud, hein, parce qu'il y avait des soignants qui étaient là, il y avait les policiers qui étaient là aussi, ils avaient sorti les canons à eau et à un moment, moi comme j'étais en tête du cortège, parce que je suis chef des Black Blocs, et d'ailleurs mon surnom c'est, je peux pas vous le dire, et donc bon, ils ont commencé à charger et du coup il y a Géronimo qui a reçu une grenade de désencerclement. Merde, j'ai dit son surnom. Désolé Pascal. Je me suis précipité pour faire compression sur la plaie, mais Pascal Giraud est mort dans mes bras. Et d'un seul coup, après il y a plein de scarabées qui sont arrivés comme ça et qui ont commencé à violer Non, je déconne, je suis pas allé à la manif. Hein. Attendez, je suis de gauche, hein, c'est pas la question. Mais j'avais un déménagement. Voilà, et du coup à 14h, j'étais complètement bourré. Un déménagement dans le Nord, c'est un meuble, une bière. Et mon pote, il est menuisier, donc on était tellement bourré qu'on a déménager l'appartement du voisin. On s'en est rendu compte en déballant les cartons. Il a dit putain, je savais pas que j'avais des gosses. Du coup, maintenant, il a des gosses. Ah, on n'avait pas à faire 50 allers-retours. Non, et puis il faut dire un peu que j'ai un peu peur dans les manifs, mais c'est à cause de BFM. Parce que quand tu regardes BFM, tu dis merde, je me suis gouré de chaîne. Je suis sur la chaîne de la bagarre ou quoi. Tu sais jamais c'est quoi le thème de la manif. Les mecs, ils partent de République en criant on veut de l'argent. Ils arrivent à Nation, ils sont là, rendez-nous nos mains. Putain, il faut être cohérent, les gars. Merde. Non, mais c'est vrai que c'est violent, les manifestations maintenant. Là, vous avez vu l'infirmière qui s'est fait traîner par les cheveux sur 10 mètres par Jean-Jacques, le CRS. Qu'est-ce qui pousse à faire ça, putain? Qu'est-ce qui pousse une personne d'1m55 et asthmatique à lancer des petits cailloux à la police? Elle croyait qu'elle allait gagner ou quoi? Oh! Si tu veux gagner contre un CRS, tu fais un trivial poursuite. Ah. À toi de jouer, lance le dé. Non, ça c'est le plateau, Jean-Jacques. Le dé, c'est le petit cube. Non, ça c'est un rond. Non, ça c'est un apéricube. Mais tu chauffes. Oui, bien. Allez, lance-le. 8. Comment ça, 8? Non, ça, c'est 1, ça. Allez, bravo, t'as gagné. Non, on s'emmerde pas avec les questions, on a qu'à dire qu'on joue au dé. Alors, il y a un gros débat parce qu'apparemment, c'est l'infirmière qui a commencé. Hein, et vous rendez compte, quand même, à quel point il faut être au bout du rouleau pour quitter son boulot et aller jeter des graviers sur des flics. Les CRS, ils sont en armure, ils ont des grenades, des flashballs. Et elle s'est dit, tiens, j'en ai tellement plein de cul aujourd'hui. Plutôt que de toucher mon salaire, je vais aller me faire péter la gueule dans la rue. Moi, je ne supporte plus les manifestants qui se font taper. À la prochaine manif, j'y vais. Qu'est-ce qu'il y a les 20 juin, violence policière et sans papier. Dommage, j'ai aquarelle. 21 juin, fête de la musique. Voilà, très bien. On se donne rendez-vous le 21 juin. Je serai avec mon groupe de musique alternative. Ça veut dire que des fois on joue, des fois on joue pas. Allez, merci de m'avoir écouté.
Emmerich Lomprey, merci. Et vous êtes aussi rigolo sur scène, je tiens à le dire. Et vous allez remonter, vous, bientôt sur scène.
Ah ouais, la flemme.
Mais non, attendez, j'ai noté le 22, donc on sera lundi soir.
Lundi.
À l'Européen, mais comment c'est possible?
Eh ben, on fait un plateau, ça s'appelle Retour vers la culture. C'est un jeu de mots par rapport à Retour vers le futur.
Ah.
Enfin, c'est pas moi qui ai trouvé, hein. C'est Alex. Et
voilà, c'est un plateau. Je suis le réceptacle, la mauvaise balle.
Un plateau, donc un avec plateau. Plusieurs.
Voilà, il y aura Abou Naïmin, Paul Taylor et des filles. Ouais. Et donc,
Mais alors, c'est déjà complet, il y a combien de places?
Il y a 240 places et on en a enlevé juste 100 places pour des raisons sanitaires. D'accord. À cause qu'il y a eu le Covid, je crois quoi.
Ouais. C'est complet ou pas?
Non, je crois pas que ce soit complet, voilà. Il reste des places.
Lundi soir à l'Européen, si vous êtes à Paris ou de passage à Cajar.
Oui, et ça commence à 15h, il y a les street art et tout dans la rue.
Ah
et tout,
ouais,
ça.
Ouais, donc c'est foufou ça. Tu viens de dire foufou vraiment?
Ouais,
je crois qu'il est temps de lancer mignon. La musique alors.
You better find somebody to
airplane, some body to love. Vous écoutez Par Jupidémie sur France Inter également. Oui, c'est la date où on en bouffe à tous les râteliers. Alors on va s'en donner à cœur joie quand même. On commémore un petit peu quand même. Un petit peu de quoi. Ben, vous voyez ce que je veux dire?
Mémoire.
My editorialist is rich. The planned news, full of informations. C'est parti.
Mes chers compatriotes, je ne crois pas que surmonter les défis qui sont devant nous consiste à revenir en arrière. Mais les temps imposent de dessiner un nouveau chemin.
Le journal de presque 17h17.
C'est pas très bien dessiné. Hein.
Là, c'est parce que je le fais vite. Bon, avec les perspectives, oui, c'est plus comme ça, effectivement.
On commence par les titres.
Hier a eu lieu le débat des municipales à Paris entre Rachida Dati, Agnès Buzyn et Anne Hidalgo, mais cet échange n'a pas vraiment passionné les foules.
Et ouais, la politique, c'est comme le football, quand c'est une gonzesse, ça intéresse plus personne.
Mais enfin, Alex!
Pardon, non, mais non, parce que mon auteur, il bosse en alternance sur Sud Radio, du coup, il s'est gouré. Ouais, et ça, vrai, franchement, je regrette.
Oui, bon, municipal à Lille, selon un sondage de La Voix du Nord, Martine Aubry et Stéphane Bally se tiennent dans un mouchoir de poche.
Ouais, un peu comme à Paris, en février.
Comment ça?
Benjamin Griveaux aussi, il se la tenait un peu dans un mouchoir de poche.
Vous féliciterez votre auteur pour celle-là.
Non, celle-là, elle était de moi.
Ça. C'est encore mieux, ça. Et des brèves?
Oui, les brèves, vous savez que c'est un petit peu mon onanisme à moi. Alors, il y aura des brèves.
Commençons donc
ne vous
par...
Ne pas l'image, Juliette. Pénible, on perd du temps. Commençons.
Ça vous ennuie que je fasse un jour? Ouais. Commençons donc par le débat pour la mairie de Paris.
C'était donc hier soir sur France Info. Et c'est important, les débats, parce que comme ça, les électeurs peuvent vraiment se faire une idée avant de se prendre une décision, connaître bien le programme des candidats. Des candidats.
On ne pourra pas finir, Madame Dati. S'il vous plaît, on avait une heure, les règles étaient claires.
Pardon, Madame Dati, je vous interromps.
C'est de mentir.
Pardon, Madame Dati, je vous interromps.
Les Français sont morts. Les Français sont...
Vous avez encore une minute chacune. Une minute chacune, madame. Oui, s'il vous plaît. Vous allez encore avoir une minute.
Ouais,
Madame Dati,
oui, non, mais ça sert à rien. Voilà. Donc quoi, maintenant, vous en savez un petit peu plus. Et comme ça, vous pourrez bien voter en âme et conscience.
Sachez encore à propos du scrutin parisien que pour Hervé Morin, Rachida Dati a encore une carte à jouer à Paris.
Je trouve ça quand même fort de café, quoi, que l'humoriste de chez Nagui se dise, bah tiens.
Mais Alex, c'est pas Daniel Morin, c'est Hervé Morin, le.
Vous donnez des infos avec des gens qu'on connaît pas, alors on s'en sort plus. Il paraît que Jacqueline Bouchard, elle est à fond sur Agnès Buzyn.
Appel du 18 juin, Emmanuel Macron s'est rendu à Londres sur les pas du général de Gaulle.
Ouais, enfin, il s'est enfui, quoi. Et vu la situation sociale dans le pays en ce moment, il est moins sur les pas du général de Gaulle en 40 que sur ceux de mai 68.
International à présent, oui. La nièce de Donald Trump va révéler des secrets de famille dans un livre.
Oh oui. Au championnat du monde de l'ambiance en famille, les Trump vont faire une belle remontée pour se placer entre les Hallyday et les Mouax. Toujours en tête, évidemment.
Économie. La crise sanitaire a coûté 200 millions d'euros de chiffre d'affaires à la Française des Jeux, selon sa PDGR.
Bon, enfin, c'est pas comme si à la Française des Jeux, ils savaient pas que, on gagne pas tous les coups. Ben voilà.
Le mari d'Amel Bent est jugé pour une vaste fraude au permis de conduire.
Oh,
oh non. Ah non,
il n'a qu'une philosophie, fabriquer des faux permis, malgré que ce soit un délit, ils vendent des permis B, visez la tuer.
C'est bon, merci, c'est bon.
Oui, mais Laurent Gérard, il fait pas Amel Bent. Alors, là, je tiens à mon truc.
Merci. Et des grèves.
Bezoul.
Attention, avec
Bezoul, cambriole la pizzeria et repart avec des tranches d'ananas. Premier cambriolage d'utilité publique, donc merci à lui.
On peut le remercier, en effet. Voilà. Et la dernière,
Bretagne, il manipule un obus avec un chalumeau à son domicile. La bombe explose. Voilà, l'homme s'en est sorti avec une simple blessure au visage, coup de bol. Voilà, ce qui dit quand même que Darwin avait doublement tort.
Ah bon?
La sélection naturelle ne marche pas à tous les coups. En ce qui concerne la théorie de l'évolution, manipuler un obus avec un chalumeau, on est en droit de se dire que c'est pas une évidence.
Merci Alex Vizorek. Juliette Arnaud, vous avez choisi un livre qui vient de paraître et dont l'auteur, si je ne m'abuse, a été comédienne, puis scénariste pour des séries à succès comme Scène de ménage ou La petite histoire de France.
C'est vrai.
Le livre s'intitule « J'ai hâte d'être à demain ». Il s'agit de Sandrine Sénès.
Je ne sais pas si William Scheller a raison.
Je sais pas si effectivement les gens qui s'aiment sont toujours un peu les mêmes et aussi rebelles et aussi cruels. En revanche, je connais quelqu'un qui les a croqués par petites touches. Comme une peintre impressionniste, Sandrine Senès, dans ce recueil de nouvelles, elle les dessine encore plus qu'elle ne les écrit, puisque nous, lecteurs, on finit par les voir. Vous voyez comme Monet nous donne l'impression d'être dans la flotte d'un bassin à barboter avec ses nénuphars, avec la chair rosée des waterlilies qui fend suavement le bleu et le vert de Londres, vous voyez, oui ? Eh ben Sandrine Senès, c'est pareil. Elle patauge, elle aussi, sauf que par rapport à Monet, elle est drôle. No offense, Claude. No offense taken, vient-il de me dire. Oui, je parle avec les morts. Elle patauge parce qu'elle est plongée parmi tous ces gens qui s'aiment et elle n'en fait pas partie. Elle est célibataire et comme elle n'est pas une jeune vierge de moins de 25 ans, notre monde la désigne sous le gracieux terme de « vieille fille ». Dont la littérature a réalisé de tout aussi gracieux portraits, et allez la cousine bête pour la version horrifique, et vas-y la version poignante avec Eugénie Grandet, et au XXe siècle, on n'est pas de reste, Bridget Jones écrase la concurrence, sans jeu de mots, sauf qu'à la fin, grâce à Dieu, tout va bien, elle a un mec et un enfant, tout est sous contrôle, c'est pas Pétain, travail, famille, patrie, qui risque le cacage dans sa tombe. Oui, Charline ? On est le 18 juin, je manque de tact de parler de Pétain. Pardon.
C'était le 17, lui, donc il y a prescription.
C'est une imitation ?
Non. Pour la comprendre, Sandrine Senès, il aurait fallu surprendre le chemin d'un de ses regards. C'est joli, hein ? C'est normal, c'est pas de moi.
Pour me comprendre, il aurait fallu au moins ce soir pouvoir surprendre le chemin d'un de mes regards, triste mais tendre, perdu dans le hasard.
Triste mais tendre, ils le sont ses portraits et le sien, en creux, tendre et rieur, souvent cruel quand il le faut, complètement zinzin parce que c'est zinzin les gens qui s'aiment, tous, les jeunes, les vieux, les en couple depuis la 5Q, les tout frais, les qui se jettent des boîtes de sardines à la figure, les qui s'aiment en secret, les qui s'aiment mieux quand c'est en public sur les réseaux sociaux, et babar, non pas l'éléphant qui a épousé sa cousine Céleste, le poivreau du bar tabac où Sandrine Senès achète ses cigarettes et qui abreuve l'écrivaine de déclarations avinées mais sensibles, sauf quand Sandrine devient grégrine. C'est ça le problème avec l'alcool, ça bouffe les consonnes. Quand au hasard on touche au point majeur, cette célibataire est-elle seule ou esselée ? Et pour savoir, vous savez quoi ? Eh ben on va se faire la grâce de l'analyse foireuse et psychanalytique du titre. J'ai hâte d'être à demain. Psychanalytique ?
Quand on boit de l'alcool, on perd quoi ? Les consonnes ? Oui, j'écoute vos chroniques.
C'est l'aise que vous faites. On va donc se faire la grâce de l'analyse foireuse et psychanalytique du titre. J'ai hâte d'être à demain. Demain ou demain? Ouais, on va s'épargner ça. Guillaume me souffle qu'on n'en peut plus de Freud. On va plutôt la lire, Sandrine Senès, et grainer ses courtes nouvelles, elle qui triture le hasard, ses souvenirs, ses regards et les objets de ses regards pour tâcher de comprendre le hasard qu'il a fait célibataire et sans enfant. Question subsidiaire. Hasard heureux ou malheureux? Sa réponse, vous l'aurez en finissant le livre. Les petites taches de son tableau impressionniste la révèlent alors, comme lorsqu'on s'approche des nymphéas, pile à la bonne distance. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, donnez-nous toutes les références de l'ouvrage.
Elle vous s'appelle Sandrine Senès, son recueil de nouvelles s'appelle J'ai hâte d'être à demain et c'est chez l'Iconoclaste.
Chouette, et ouais, en librairie indépendante,
s'il vous plaît.
Et souveraine. Merci Juliette. Pour nous ambiancer dans cette émission, nous avons une DJette parmi nous. Ouais. Je le rappelle parce que c'est pas toujours une évidence de danser sur les titres qu'elle propose.
Oui, je l'ai vu tout à l'heure. D'abord, je me suis dit, mais en fait, elle est émue, ça l'a touchée. Il y a une larme qui coulait quand elle écoutait Michel Berger. Et non, elle saignait des oreilles.
Ah, c'était Michel Berger.
Oui, oui. On en apprend tous les jours. Bonjour Mélanie Bauer.
Bonjour, en cette date anniversaire des 80 ans de l'appel du général de Gaulle, je vous invite à vous souvenir de la France de Giscard, que l'on appelait joyeusement dans ma famille crâne d'œuf. Des départs en vacances, dans les vieilles déesses qui nous filaient mal au cœur, de ces films noirs et politiques que l'on regardait sur de très grosses télés au dos bombé. Avec un disque moitié instru, moitié chanté d'un nouveau duo, Norman Langolf et Arnaud Van Collen, qui sortent leur premier album sous le nom de Staplin. Staplin, c'est une référence au personnage de Bertrand Blier dans le film Série Noire d'Alain Corneau. Vous savez, le film où Patrick Devers se tape la tête sur la carrosserie de la voiture et c'est horrible et hyper traumatisant. Ici, on garde les références et les clins d'œil, mais on fait de la musique nouvelle. est habillé de noir avec des lunettes noires aussi. Le duo de Staplin répond à la question que les journalistes posent quand ils n'ont pas écouté les disques. Quelles sont vos influences? Sur une playlist Spotify, on y retrouve toutes ces influences. François de Roubaix, John Barry, Pierre Henry, tous les grands compositeurs de musique pour l'image et la danse. Un romantisme bien de chez nous. C'est d'ailleurs vraiment dommage que ce type de disque n'entre pas dans les quotas des productions françaises à la radio, car il y a bien, s'il y a bien un son français, c'est celui-là, même s'il n'est pas chanté en français. Ses influences, ils ajoutent quelques invités. Allo Maude, du groupe Moodoid, le chanteur Sacha Sieff et le charmant Marc Kerr, moitié du duo Electro Maestro, et aussi la chanteuse californienne April March. Bon, je vous ai perdu.
Ouais. début, hein, je peux vous dire.
April March, c'est une artiste atypique aux États-Unis car elle est amoureuse de la France et de Gainsbourg. En 1995, on était tous tombés accros de sa reprise de France Gall, Laisse tomber les filles. Super son. On la retrouve donc April March sur un morceau du premier album de Staplin, Neon Shades, qui sort demain. Et selon mes sources, il semblerait que ce ne soit que le début de leur collaboration. Elle devrait apparaître aussi sur le prochain disque du duo. En attendant, on écoute Celluloid. Avec la douce voix d'April March, donc Celluloid sur l'album Neon Shade, ça sort demain et le groupe s'appelle Staplin.
Merci Mélanie Bauer. Alex Vizorek.
Oui, vous voudriez savoir qui est autour de la table, qui est avec nous, qui en a déjà entendu, qui on va entendre. Eh bien, on a déjà entendu la gauche de l'émission, Juliette Tarnot et Émeric Lomprey. On entend avec impatience la droite de l'émission, Clara Dupont-Mono et Thomas Ducap-Ferret Croisière. Mais avant cela, il y a le macroniste de cette émission, ah oui. Car il se fait passer pour un homme de gauche, mais ce qu'il préfère, c'est parler avec des gens de droite à son micro. Guillaume Meurice.
C'est vrai, c'est vrai. Vous êtes prêts?
Oui.
J'en appelle aux Français qui veulent rester libres. Ah, les amateurs d'imitation se régalent. Alors si vous n'êtes pas content, vous pouvez partir sur Europe 1, hein, y a pas de souci. Mais il y a Nicolas Canteloup, donc j'ai l'impression que c'est du perdant-perdant cette histoire quand même. Donc vous l'avez compris, je vais vous parler du général de Gaulle. On est le 18 juin, donc il y a 80 ans, le général de Gaulle était l'invité de la matinale de la BBC. Avec un succès relatif, on n'a pas le médiamétrie de l'époque, mais la France était quand même plutôt branchée sur Panzer FM. Il y a des belles émissions d'ailleurs sur Panzer FM à cette époque-là. Ah oui, 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 il y avait le téléphone sonne à la Gestapo, on pouvait dénoncer les voisins directement en appelant. Il y avait par Jupiter, bien évidemment, ah, bah, bien sûr, ça cartonnait, la bande à Charline, les imitations, les accents, il y a de tout dans la chronique. Mais voilà, 8 décennies après, qu'est-ce qui reste de l'héritage du général dans le cœur des Français? Je suis allé les voir ce matin et les souvenirs sont encore vivaces.
Ce qui est extraordinaire, c'est que moi j'étais tout jeune quand ça s'est passé, c'était à Périgueux, il y a Pétain qui est passé, qui a été applaudi. 15 jours après, il y a eu De Gaulle, il a été applaudi tout pareil par les mêmes.
Ça, c'est la France, ça, alors.
C'est la France.
C'est la France qu'on aime. C'est la France qu'on aime. Le en même temps, hein. C'est le en même temps. La France est macroniste depuis toujours, en fait, hein. On est le pays de Voltaire et de Pascal Pro, d'Aragon et de Darmanin. On applaudit les soignants et on vote pour ceux qui les défoncent. On n'est pas sectaire. Alors, puisqu'on parle Pétain et De Gaulle, eh ben, poursuivons.
Je suis très frappé du parcours parallèle, parce que ce sont deux héros nationaux. Le premier a collaboré avec les nazis, le deuxième a largué l'empire colonial français.
Qu'est-ce qui est le pire entre les deux?
Ben, d'avoir largué l'Algérie, c'est pas mal, parce que sinon on aurait 80% de députés musulmans.
Oui, ah oui, 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 effectivement, vu comme ça, je vous parle pas là des débats sur BFM, les unes du point, là ça serait l'enfer. J'adore les nostalgiques de l'Algérie française qui disent chacun chez soi. Il n'y a pas plus souverainiste qu'un colonialiste. Je trouve ça génial, on est vraiment dans le cas de Juliette Arnault qui ferait de la pub pour Volvic. Quoi. C'est vraiment un truc incroyable. Alors continuons dans notre hommage en cherchant un héritier au grand Charles.
Hier, j'ai vu De Villiers, justement, à la télévision, et je suis entièrement d'accord avec lui.
De Villiers, est-ce que c'est pas plutôt l'héritage de l'extrême droite, donc les adversaires historiques de De Gaulle?
Non, pourquoi l'extrême droite? C'est un homme raisonnable, qui est un esprit... qui est l'esprit du 9/10 de la France.
Oui, alors bon, les chiffres, ah là, c'est vraiment un sondage PMU pour Valeurs Actuelles et la Gazette du Puy du Fou. Mais bon, ça pourrait arriver quand même. Donc moi, j'ai demandé l'asile politique en Belgique. Voilà, je trouve que c'est un pays magnifique, accueillant, et puis on peut très bien vivre sans avoir gagné 2 Coupes du Monde. Moi, ça me va très très bien. Même s'il y a des choses qui me manqueraient en France et des choses que l'on doit au général.
C'était un homme qui savait prendre des décisions, qui avait une vision claire. Vous voyez, le Cap d'Agde, on peut critiquer la construction, mais quand il se fait la réflexion un jour en passant par là, qu'il dit pourquoi tout le monde va en Espagne et pas en France, je vais construire ça en 2 ans, je dis bravo.
Alors, c'est pas l'homme de Londres, c'est l'homme du Cap d'Agde.
Un peu, oui.
Un peu beaucoup, on l'oublie ça souvent. Si vous pouvez vous dorer la nouille au Cap d'Agde et niquer votre capitale soleil en 2 mois, c'est grâce au général. Bah, c'est vrai, quand on parle de l'héritage du général, on oublie les harkis, les barbouzes, la France-Afrique et le Cap d'Agde. Faudrait mettre une statue du général avec un tube de Biafine, par exemple. Voilà, moi je propose, c'est lancé. Mais qui osera? Qui est aujourd'hui son héritier? On continue.
Alors, vous n'allez pas du tout aimer ma réponse. Moi, je pense qu'un homme qui pouvait faire des choses, c'est Sarkozy.
Bah, j'adore votre réponse.
Voilà, c'est tout. Je trouve que voilà.
Il apaisait les choses comme le général de Gaulle.
Pour moi, si vous voulez, il faut pas se fier aux apparences.
Oui, voilà, c'est vrai.
C'est pas
non, mais,
bien.
Non, mais si on se fie pas aux apparences, c'est les mêmes. Il était pas bling bling, évidemment, le général, il avait pas les mêmes copains. C'était pas Bolloré, son copain, c'était Malraux. Alors, entre ici, dans la piscine de mon yacht en slip. Je vous avais dit, hein. Bah, non, mais j'avais prévenu, imitation à la pointe. Et en plus, ça se passe où? Sur le service public. Quelle indignité. Bam! Laurent Gérard, il se retourne dans sa tombe, là, direct. Bref, en tout cas, ceux qui se revendiquent le plus de Gaulle aujourd'hui, ce sont les membres du parti Les Républicains. Eh ben, ça tombe bien, ils sont toujours en campagne dans Paris pour les municipales, alors allons-y.
Quel est l'héritier ou l'héritière de Gaulle aujourd'hui?
C'est une bonne question.
Ah ben, c'est une super question.
Agnès Evren.
Ah oui, Agnès Evren, évidemment. Bon, alors là, vous vous dites... Eh ben qui sait, même Charline, regardez, même Charline. Alors qu'elle connaît tous les sous-secrétaires d'État au commerce depuis Clovis. Elle ne sait pas. Eh bien, c'est peut-être la future maire du 15e arrondissement. Et oui, elle organise la résistance contre Hidalgo, l'opération Chihuahua Vengeur. Eh bien, vous savez quoi? Allons voir Agnès.
Pareil que vous êtes l'héritière de Gaulle.
Mais voilà. Et d'ailleurs, notre liste l'incarne. Elle incarne l'esprit de résistance, le rassemblement.
l'union, puisque nous, on était divisés, on est des partisseurs de liste, et aujourd'hui, voilà.
Est-ce que Rachida Dati, elle est dans l'esprit du général de Gaulle ?
Bien évidemment,
le général de Gaulle, c'est le boutin qui a Hermès. De toute façon, c'est tout ce que vous voulez, le général de Gaulle. Tous les politiques vendraient leur mère contre un peu de swag du général. La France entière est à l'image des élections dans la capitale. Paris martyrisé, Paris outragé, mais Paris bientôt libéré.
Tu sais pourquoi je rigolais ?
Dans les imitations. Parce
qu'avec vos conneries, on va devoir diffuser un son de tous les candidats dans le 15e.
Bah oui, on est en période de municipale. Je vous souhaite bon courage.
Mais non, c'est vous, allez sur le marché.
Dès lundi.
C'est foutu pour vous, là.
Après tous les autres.
Ouais, là, vous avez bien merdé, Guillaume.
On va suivre les élections dans le 15e.
Au contraire, ça va être génial.
Super. Donc, chers auditeurs, vous allez passer toute une semaine dans le 15e arrondissement de Paris.
On vient de perdre tout le monde. C'est mon arrondissement préféré.
Super. Voilà,
la main de Dieu,
En attendant, on va faire quelques exercices, avant de perdre tout le monde. Alex.
Oui. Est-ce que vous savez ça, vous qui êtes beaucoup sur Twitter, Charline, on peut désormais publier des messages audio de 140 secondes maximum. Donc voilà, prenez votre téléphone, vous parlez, c'est projeté sur Twitter. Alors, petit exercice de mathématiques, concentrez-vous, notez bien. Sachant qu'actuellement, un tweet écrit fait au maximum 280 caractères. Admettons que dans la langue française, la moyenne de caractères par mot est de 4 lettres. Sachant que Nicole Ferroni débite 25 mots toutes les 5 secondes. Par quel type de tweet pourra-t-elle dire le plus de choses, tweet écrit ou tweet vocal ? Attention, n'oubliez pas de compter les espaces. Alors évidemment, instinctivement, on a tout de suite envie de répondre quelque chose, mais il faut faire le calcul.
Exercice d'histoire et d'appel du 18 juin. Imaginons si Internet avait existé à cette époque, un tweet et c'était le débarquement. Oui, d'accord, mais à quelle date est né Internet ? Petit A, 1989. Petit B, vivement les vacances, vos questions deviennent de plus en plus dures. Petit C, 1992. Petit D, 2018, parce qu'avant, j'avais pas la fibre, et du coup, c'était Internet, mais vraiment ralenti.
Clara, vous prenez la réponse D.
Oui, c'est un office. On l'a bien vécu, ça. Guillaume.
Moi, j'ai un exercice d'anglais, parce que je suis le plus, plus bilingue, en fait, de la bande. Après avoir fortement critiqué le joueur de football Colin Kaepernick, Donald Trump s'est mis à le soutenir. Ce que fait Donald Trump s'appelle un to do and about face. Mais que signifie cette expression en français? Est-ce que c'est peigner la girafe? Expression inventée pour les chaînes info. Est-ce que c'est faire un four? Expression fréquemment utilisée par Émeric Lompré. Est-ce que c'est retourner sa veste? Souvent usitée par Aurore Berger. Ou est-ce que c'est se regarder le nombril? Expression favorite des Français. Ah merde, c'est Charline qui a écrit l'exercice. J'aurais dû relire avant.
Merci Guillaume. Les corriger sur franceinter.fr et notre page Facebook. En ce 18 juin, nous avons la chance d'avoir une spécialiste de Jack London dans cette émission.
C'est génial. London, Londres, mais surtout, si on connaît l'œuvre de Jack London comme moi et celle du général de Gaulle, on peut se dire qu'à deux, ils auraient pu écrire L'appel de la forêt le 18 juin.
Rien avec Cro-Blanc, en revanche.
Lara Dupont-Moulin,
Nous sommes le 25 juillet 1897 en Californie. Un homme monte sur l'Umatilla. Alors non Alex, ce n'est pas le prénom d'une escorte ukrainienne. Non, c'est le nom d'un bateau. Et celui qui monte dessus, c'est votre meilleur ami Alex, c'est Jack London, bien sûr. Il part dans une région qu'on appelle le Klondike, qui est située entre l'Alaska et le Canada, pour accompagner les chercheurs d'or. Et on estime aujourd'hui que la ruée vers l'or, qui n'aura jamais duré pas plus de 2 ans, a attiré 1 million de personnes, et la plupart n'en sont parvenus. Notez que les Indiens non plus, qui vivaient là paisiblement et qui ont vu arriver des hordes de gars gelés, affamés et sans scrupules. Alors Jack London, lui, ne ramènera pas d'or, mais il ramènera 2 choses. 1, le scorbut. On ramène ce qu'on peut. Et 2, une pépite inestimable qui s'appelle l'inspiration. À son retour, il écrit des petits textes extraordinaires et quand il les enverra aux éditeurs, il essuiera 266 refus. La win, madame l'édition. Finalement, ces textes seront édités, succès foudroyant, et notamment un recueil de nouvelles qui s'appelle Les Enfants du Froid, dont je vous parle aujourd'hui, que les éditions Phébus ont eu la très bonne idée de rééditer. Et c'est unique ce qu'il fait, Jack London, dans ses 10 nouvelles, parce qu'il écrit, je cite, « du point de vue indien, comme à travers les yeux des Indiens. Il ne s'est intéressé qu'aux Indiens du Grand Nord. Il y a la tribu de l'ours, la tribu des poissons blancs, la tribu des insatiables. Il y a leur savoir, leur vaillance et leurs limites aussi. London se sert de ce qu'il voit, il restitue une réalité, c'est le Émile Zola du Grand Froid. On est dans un naturalisme polaire. Chaque nouvelle répond à une question. Que se passe-t-il quand un Indien est parti rejoindre les Blancs, a fait fortune et qu'il revient dans sa tribu? À quoi ressemble la seconde où il accoste sur la rive qu'il avait quittée des années auparavant? Et quand c'est un Blanc qui déboule et qui veut s'intégrer et qui apprend la langue, comment décrire le chaos que malgré tout il génère? Et sur quoi, sur quelle valeur repose un couple d'Indiens? Alors je vous donne un début de réponse. L'égalité homme-femme est à ce moment-là une notion aussi banale qu'un baobab en Arctique, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas, en fait. Et puis, dans ce texte, il y a une nouvelle, pour moi la plus forte parmi les 10, qui s'appelle La loi de la vie, et qui raconte en quelques pages un vieil Indien laissé sur le côté, car l'heure est venue de mourir. Il est aveugle, il entend les traîneaux s'éloigner, et le pas des loups qui progressivement l'encerclent. Et il dit cette chose, il dit « C'est bien ». Je suis une feuille de l'an passé, presque détachée de sa tige. Au premier vent qui soufflera, je vais tomber. Mes yeux ne montrent plus à mes pieds leur chemin, et mes pieds sont lourds, et je suis fatiguée. C'est bien. Qui aurait cru qu'un renoncement puisse être aussi simple et aussi beau? Eh ben, Jack, always. Je vous donne les références. Les Enfants du Froid de Jack London sont reparus en libretto aux éditions Phébus.
Merci Clara Dupont-Monod. Dans toutes les librairies indépendantes et souveraines.
Merci Clara, musique.
Te souviens-tu du temps de nos confinements? J'étais triste et hagard, ne sachant plus vraiment si les jours reviendraient des grands rires et du vent. Tu m'as dit doucement qu'on avait en deux temps toutes les solutions à nos questionnements. Sachant plus vraiment si les jours nous rendraient plus aimés, plus aimants. Tu m'as dit tendrement que j'avais maintenant toutes les réponses à mes questionnements.
M. Et n'oubliez pas que Frédéric Fromet a fait une très belle chanson sur M à base de
Voilà, si vous ne l'avez pas entendu, allez réécouter surtout. Vous écoutez par Jupidémie sur France Inter, où c'est le moment de jeter un petit coup d'œil dans le rétro avec une tranche de vie, de feu, notre émission confinée. Avec le recul, on se rend compte que cette période, ça a été du grand n'importe quoi. Chez nous quand même, chacun chez soi, par Skype, on s'est fait des tas de confidences parce qu'on a passé tellement de temps branché comme ça. Et ce making-of, c'est devenu une pile de dossiers sur tout le monde, y compris moi.
J'ai augmenté mon volume, maintenant je suis à deux verres de chardonnay tous les soirs.
Je crois que c'est la solution.
Non mais deux verres, c'est pas bien quoi, c'est pas bien. C'est pas
non
bien.
Mais je crois qu'il n'y a pas d'autre choix en fait.
Vous voulez que je vous parle de mon fût de lèvres qui ne va pas me faire deux jours? C'est 5 litres hein, quand même, c'est 5 litres les gars. Et je ne vais pas enfiler à des enfants de 9 et 7 ans.
Charline, tu bois combien toi? Dis la vérité.
Je ne bois jamais avant 20h déjà.
Fais montrer tes yeux.
Je ne bois jamais avant 20h et une bière le midi. Après, c'est non, pas non, la meilleure phrase du monde ça.
Oui, elle est bien.
Ben ouais.
Je ne bois jamais avant
20h. Si, je bois une bière le midi, après je ne bois pas, je bois pas avant 20h. Bon, je reformule ma phrase. Je bois, mais après 20h.
La bière à midi.
Ah oui, bah, excepté la bière à midi, oui, ça.
Mais une bière, c'est pas de l'alcool, hein.
Ouais, non, bah, c'est ce que disait mon grand-père sur le Pernod, c'est ça qui l'a tué. Hein.
Demain, j'arrête. On est en direct, on tient plus le rythme, donc voilà, on est obligé de redevenir sérieux. Bon, si on passait au dessin pour oublier ce qu'on a entendu.
Les volets pour la santé, il faut le dire.
Oui, bah, avec modération. Voilà. Hein. Ouais. Avant ou après 20h, modération. Le dessin. Les boîtes de riz Uncle Ben's sont taxées de racisme. Le fameux riz qui ne colle jamais, va sans doute devoir changer son packaging, c'est-à-dire le dessin, la forme, la couleur de la boîte. Donc, il va falloir aider la marque en créant le packaging de la nouvelle boîte. Donc, on avait Uncle Ben's, qui est noir. Donc, la nouvelle boîte, ce sera le riz Tata Jacqueline. C'est pas de problème. Donc, dessine le packaging de la boîte de riz Tata Jacqueline. Comme ça, c'est pas raciste. Parce que c'est bien blanc de souche. Hein. C'est Tata Jacqueline, c'est la cousine de Mamie Nova et de Papy Brossard. Donc, on est... Sur ce, rejoignons à présent ceux qui, après 2 mois enfermés au Cap Ferret, ont entamé un déconfinement tour qui est passé par Arles, Montpellier, Sète et aujourd'hui Marseille. C'est le mini ciné-club itinérant de Thomas Croisière en duplex de la Canebière.
Confiné, libéré. Avec les deux Charlots, je leur propose chaque soir la séance de Thomas Croisière. Et hier, c'était...
Le dictateur
de Charlie Chaplin.
Je lis dans l'autobiographie de Woody Allen, je n'ai jamais trouvé, même vaguement amusant, le dictateur. Je ne suis pas du tout sûr que ce moment où Chaplin joue avec le globe terrestre comme avec un ballon soit un exemple de génie comique. J'ai donc voulu savoir si sur mes enfants, ce film ferait fureur.
Alors, je n'ai pas du tout aimé le dictateur. J'ai bien aimé le vrai Charlie Chaplin, parce qu'on peut les confondre, le dictateur et le barbier.
J'aimais l'idée de scénario et quasiment de l'histoire, car les deux moustaches les plus célèbres du XXe siècle sont nées à 4 jours d'écart. Chaplin incarne donc le double rôle du dictateur et du barbier.
C'est un barbier. Il était soldat. Après, il est allé à l'hôpital après la guerre. Et en fait, il se souvenait plus. Il avait une sorte d'Alzheimer. Il disait, il y a un jour que je suis parti de ma boutique, alors que ça faisait... Attends, c'était la Première Guerre mondiale, donc... 4 ans, alors que ça faisait 4 ans qu'il était parti en guerre. Et il se souvenait même plus qu'il avait fait la guerre.
Après plusieurs années de coma, Charlot découvre la Thomanie, son pays gouverné par le régime fasciste d'Adenoïde Hinkel qui persécute les Juifs. Peu étonnant que le film fût interdit en Allemagne jusqu'en 1945. Et c'est dans le ghetto que Charlot tombe amoureux d'Anna, avec qui il résiste.
Et pour une fois, je trouvais que la fille n'était pas cruche. Pour une fois, hein. Il y a un film où il y a une fille qui n'est pas cruche. Parce qu'elle prend sa poêle, elle assomme un soldat, quoi, par exemple.
pas cruche, mais à poil, donc. Cette héroïne, c'est Paulette Goddard, qui lui inspira les temps modernes et qui l'épousa secrètement. Dans son autobiographie, Chaplin écrivit que s'il avait connu l'horreur des camps, il n'aurait pu faire une comédie. Car dans ce film écrit en 1938, on retrouve le burlesque de Charlot, comme dans toutes les scènes de rivalité entre Hitler et Mussolini. Enfin, pardon, entre Hinkel et Napoléoni. Mais la plus célèbre se danse sur du Wagner dont Woody Allen disait « Quand j'écoute trop Wagner, j'ai envie d'envahir la Pologne ».
J'ai bien aimé le moment où il danse avec la terre, parce qu'il croit que c'est à lui, comme ça, et après elle s'éclate.
Hinkel pleure comme un enfant ayant cassé son jouet et Hitler envahit la Pologne le 1er septembre 1939, quelques jours avant le tournage du Dictateur. Premier film parlant de Chaplin qui hésita longtemps avant de faire parler Charlot.
À la fin, j'ai bien aimé son discours. Et là, il parlait beaucoup. Il disait que faut pas se battre pour la guerre et tout ça. Et il défendait les soldats pour dire faut pas se battre pour des esclavages et tout ça.
Là, ce n'est plus Charlot qui parle, mais Chaplin, pour 4 minutes face caméra d'une intensité bouleversante.
Il faut nous battre pour un monde nouveau, décent et humain, qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse, la sécurité. Ces brutes vous ont promis toutes ces choses pour que vous leur donniez le pouvoir. Ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leur merveilleuse promesse. Jamais ils ne le feront. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous!
Même en français, grâce à l'immense Roger Carrel, je ne résiste jamais à l'émotion de cet élan humaniste. Il est l'autre Charles qui lança un appel en 1940 et prit un risque majeur qui lui valut son plus grand succès public, mais aussi la liste noire du McCarthyisme et une fuite des États-Unis en 1952. Charlie Chaplin, c'était pas un Charlot. Alors vive la démocratie et vive la cinéma!
Merci Thomas Croisière, Alfred et Gaston, c'était trop beau. On sera heureux de vous retrouver la semaine prochaine pour la fin de saison. Il y aura plus que 4 films et 7 dodos. Thomas Croisière, vous serez où la semaine prochaine ?
La semaine prochaine, je serai au carreau du temple avec vous, les amis.
Oh, vous serez parmi nous, c'est super. On se réjouit. Merci beaucoup. Et merci au taulier, car c'est la fin de cette émission. Merci Alex Vizorek, Juliette Arnaud, Guillaume Meurice et Thomas Croisière. Alex, je vous retrouve demain.
Oui.
Merci à ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Clara Dupont-Mono, à la semaine prochaine.
Merci les amis, à bientôt.
Mélanie Bauer également.
Oui, à la semaine prochaine.
Émeric Lompré, on vous retrouve bientôt.
Yo yo.
Yeah. Nathalie Romero, Fabrice Rivaud, Sarah Masson ont préparé cette émission, secondée par Kélian Youssefi, notre stagiaire qui est là dans la salle. Ouais, Kéké, fais une hola, toi tout seul. François Audouin réalise. Ramzi Assadi est notre rédacteur en chef d'orchestre. À la technique aujourd'hui, les camarades Benjamin Vignal, Philippe Thibault et Jean-Michel Després. Et puis le mot de la fin, ben, un mot de la fin de 18 juin.
Mais alors, you are French?
You are not English?